steps up, throws for the end zone. Olsen, touchdown! Smith scores, and the Carolina Panthers win in overtime.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode du Poundcast de Panthers FR. Guillaume, comme toujours, au micro, ravi de vous accueillir pour ce 42e épisode. Un épisode qui va être assez similaire à celui de la semaine dernière, malheureusement, et à celui de nombreuses semaines. Et un épisode que je vais, comme d'habitude, avoir le plaisir d'enregistrer avec Thomas. Bonsoir Thomas, comment vas-tu ?
Bonsoir Guillaume, bah écoute, on reprend un peu les bonnes habitudes, enfin les bonnes habitudes, les habitudes du lundi de défaite. Voilà, on est sur une bonne dynamique de saison dans ce domaine, on va dire. Donc voilà, on est là pour un peu débriefer ce dernier match contre les champions en titre.
Ouais, une habitude de débrief de défaite, et puis on va commencer avec peut-être. Il va falloir que je me mette à trouver un générique ou un jingle pour les breaking news, parce qu'après celle de la semaine dernière, ben on a appris, avant de repartir du côté de Los Angeles, une nouvelle en provenance de Charlotte, puisque quelques minutes, à peine, même pas quelques heures, avant qu'on enregistre, les Panthers ont annoncé l'envoi du receveur Robbie Anderson du côté de l'Arizona. Robbie Anderson qui va rejoindre les Cardinals. En compensation, les Panthers récupèrent deux choix de draft, alors assez lointains, puisqu'ils sont en 6e et 7e tour dans les drafts 2024 et 2025. Donc c'est pas celle de l'année prochaine, c'est encore après. Et avec ça, les Panthers héritent pour la saison prochaine, pour le coup, de 10 millions de dead money, hein, d'un point de vue contractuel. Bah, ce que j'ai envie de te demander tout simplement, c'est qu'est-ce que tu penses de cet échange ? Je ne vais pas te demander si tu es surpris, parce que quand on va faire le résumé du match, on va vite comprendre que l'issue était plus ou moins scellée avant la fin de la rencontre. Mais est-ce que tu es content de cette compensation ? Qu'est-ce que tu en as pensé ?
Alors déjà, pour commencer, je pense qu'en fait, on peut commencer par dire que c'est un move en fait, qu'on sentait un peu venir. Quoi. En fait, bah... Rule et avait fait venir Anderson, voilà, parce que voilà, il y avait le lien Temple et compagnie, donc voilà. Et du coup, quand Rule a pris le siège éjectable, on savait un peu que Robbie était nécessairement sur la sellette. En plus, ses performances n'étaient pas nécessairement incroyables sur le début de la saison, donc ça plus ça, bah nécessairement, on s'est dit bon, voilà. Après, concernant la compensation, j'avoue que personnellement, j'imaginais seulement, enfin seulement, j'imaginais que en fait un sixième choix, peu importe l'année entre guillemets, mais ouais non, du coup voilà, on récupère un sixième et un septième bon, sur deux drafts différentes, voilà, mais l'objectif, je pense, c'était un peu, on va dire, un peu de s'en débarrasser, et c'est chose faite, ça a été fait assez rapidement.
Ouais, le nom revenait, enfin est revenu dans toute la semaine hein, dans les noms des joueurs que les Panthers cherchaient à échanger. On peut dire aussi, hein, sans trop s'avancer, que c'est un joueur qui allait être de toute façon coupé à la fin de la saison. Hein. Contractuellement, ça faisait beaucoup de sens. Donc, c'est pas étonnant de le voir partir. Encore moins quand on voit ce qui s'est passé hier soir sur le terrain, ou plutôt juste sur le bord du terrain, puisqu'il y a eu une altercation, même deux, assez virulente avec le coach des receveurs, Joe Daly, et le coach Steve Wilks, pour sa première, a terminé le match en envoyant Robbie Anderson au vestiaire un petit peu plus tôt que ses petits camarades. Donc voilà, bonne ambiance, hein, comme on dit, le groupe vit bien. Effectivement, après cette sortie, il ne faisait plus grand doute que Robbie Anderson allait devoir se trouver un nouveau point de chute et qu'il allait très probablement être coupé dans les jours et heures qui suivaient cette rencontre. Une rencontre qui pourtant avait pas trop mal démarré, je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais on a eu un premier carton, ma foi, très solide de la part des Panthers, avec une grosse dose de Christian McCaffrey, qui, par exemple, sur le premier drive, a cumulé, je crois, à lui tout seul, 58 des 61 yards obtenus par les Panthers en attaque. On l'a vu au sol, dans le slot, à la réception, enfin il était un petit peu partout, et les Panthers ont ponctué ce drive par un field goal. Ils ont mené 3-0, ils ont mangé plus de 10 minutes d'horloge sur ce premier carton. Je sais pas toi, mais moi à ce moment-là, je me suis dit, il y a vraiment une différence, et j'ai presque commencé à y croire. Malheureusement, ça va pas durer longtemps, et très clairement, la suite du match va nous faire revivre ce qu'on a connu malheureusement jusque-là. PJ Walker va notamment, avec l'attaque, enchaîner 5 three and out consécutifs. L'attaque des Rams va commencer à trouver son rythme tranquillement. Au vestiaire, c'est pourtant Carolina qui rentre en tête, 17, grâce à un pick 6 de Dante Jackson juste avant la pause. Et en deuxième mi-temps, par contre, les Rams vont contrôler l'horloge, les blessures vont commencer à s'accumuler côté défense des Panthers, ça ne va pas aider. Et au final, les Rams vont s'imposer 24-10. Comme je disais, on y a cru pendant un quart temps, et puis après on a retrouvé l'équipe des Panthers qu'on connaît. Ça résume assez bien ce qu'on peut dire de ce match, non ?
Ouais, c'est ça, globalement, ouais, comme tu dis, on a un bon premier drive avec un CMC, tu vois, qui nous fait des bonnes choses. D'autant plus qu'on savait que, bon, en ayant parté avec PJ Walker et Steve Wicks avait clairement annoncé la couleur, en fait, en indiquant que, bah, on allait plutôt se reposer, du coup, sur le jeu de course. Ça s'est avéré parce que je crois que PJ Walker termine à une soixantaine de yards, à peine, entre guillemets. Donc voilà, c'est pas énorme, il n'y a pas eu énormément de passes tentées. De sa part, pas de gros risques, donc ouais, non. Enfin, je veux dire, on a fait avec les armes qu'on avait à bord, et on voit bien que peu importe qui on a au poste de quarterback en ce moment, on a vu avec Mayfield en début de saison, c'était pas incroyable, mais il y en a certains qui voulaient voir PJ Walker absolument. Bah, fondamentalement, il nous a fait du PJ Walker. Pas de grosses prises de risques, mais du coup, on n'avance pas spécialement, quoi.
Voilà, pour le coup, je sais pas tant si c'est du PJ Walker ou alors si c'est effectivement le coaching. On va débattre de tout ça tout à l'heure, mais effectivement, on sentait que l'idée c'était de faire lancer le moins possible la balle à PJ Walker. Et du coup, bah, ça se voit sur les stats, notamment de Christian McCaffrey, qui termine à quasiment 150 yards en 13 courses et 7 réceptions. À titre de statistiques, il termine avec quasiment 75% des yards offensifs de l'équipe. C'est le deuxième plus haut pourcentage sur les 20 dernières années. Donc c'était clairement le plan de jeu, c'était de passer par Christian McCaffrey. Dans le même temps, PJ Walker, comme tu dis, alors il termine avec 10 sur 16 à la passe pour 60 yards. Ce qui est le plus choquant et ce qui montre vraiment cette volonté de prendre absolument aucun risque et de pas du tout le faire lancer en profondeur, c'est que sur les 10 passes qu'il a réussi, il y en a 9 qui sont complétées derrière la ligne de scrimmage et la 10e, elle est complétée 1 yard devant. Il y a un graphique sur la distribution des passes, je sais pas si on l'a relayé avec le compte ou pas, mais il est absolument dramatique. Et voilà, ça montre que d'un point de vue play calling offensif, il y avait rien du tout, quoi.
Ouais, bah c'est ça, c'est très limité. Puis quand tu vois qu'on essaye de partir à la passe depuis derrière la ligne de scrimmage, tu peux te dire wow, ça annonce la couleur offensive. Heureusement que CMC était là, parce que ouais, bah, du coup il a porté l'équipe. Mais du coup on retombe un peu dans ce qu'on avait vu sur les saisons précédentes avant ses blessures. On est sur une CMC dépendance pour arriver à peu près à avancer, quoi.
Ouais, je t'avoue que j'ai eu très peur sur le premier drive quand j'ai vu qu'il avait porté, il avait quasiment eu tous les portés de cette première série. Je me suis dit, mais ils vont lui faire 50 portées, ça. Ils vont le casser, c'est pas possible. Donc puis bon, ça s'est un petit peu calmé malheureusement par la suite, et puis bah, c'est vrai que la défense de Los Angeles s'est adaptée aussi. On a vu un petit peu Jacob Eason en fin de match avec la sortie sur blessure de PJ Walker. Il termine à 3 sur 5, 59 yards et une interception dans la end zone. Bon, après, sur ces 59 yards, il y en a 50 pour McCaffrey sur une course après réception. Donc, je sais pas si c'est très très parlant, mais bon, Voilà, est-ce que ce serait pas lui la suite, hein, puisque Darnold n'est pas encore revenu de sa blessure et Mayfield qui était incertain durant toute la semaine. A priori, ils ont détecté à l'IRM qu'il y avait une déchirure au niveau du ligament sur sa cheville. Donc, il devrait manquer finalement bien quelques semaines. Donc, voilà, on devrait continuer avec PJ Walker et Jacobison. Voilà, PJ Walker, comme on l'a dit, on sait ce qu'on a et ce qu'on n'a pas.
C'est là où on regrette encore un peu plus la blessure de Matt Corral en début de saison. Parce que bah là, j'ai envie de dire, vu comment la saison était partie, bah on aurait pu se permettre de le faire jouer un peu plus, enfin de le faire jouer du coup nécessairement sur la saison. Et ouais, c'est un peu amer, on va dire, à ce niveau-là.
Ouais, c'est vrai que c'est la semaine 6 ou 7, ça aurait peut-être été un petit peu tôt par rapport à ce qui était prévu.
Ouais, voilà, mais...
Mais ouais, je te rejoins que c'était, ça aurait été voilà, une saison de toute façon où il n'avait rien à perdre et ça aurait été idéal pour lui. D'autant que la ligne offensive, pour le protéger, aurait été plutôt pas mal, parce que globalement, elle a été encore assez à l'aise. Après, c'est vrai que vu que PJ Walker se débarrassait de la balle très très vite, 2 yards derrière la ligne de scrimmage, c'est vrai qu'il n'avait pas le temps de concéder un sac, quoi. Du coup, autre conséquence de ça, bah, chez les receveurs et les tight ends, bah, on n'a rien vu, hein, puisque par exemple DJ Moore termine avec 3 réceptions pour 7 yards. Et puis bah, aussi, on a vu le show Robbie Anderson sur le banc de touche, mais c'était guère tout. Pour le reste, c'est du classique, hein, 2 sur 10 en 3ème tentative, seulement 8 first down sur tout le match, 23 minutes de temps de possession, dont 11 rien que dans le premier quart. Voilà. Ouais. Ça en laisse 12 sur 3 quarts temps. C'est la définition de la souffrance pour nous qui avons regardé ce match, quoi.
Surtout un match à 22h.
C'est ça. Est-ce que tu voyais autre chose à ajouter sur l'attaque ou tu voulais passer en défense?
Non, bah écoute, on peut passer à la défense. De toute façon, l'attaque, ça a été ça a été tellement difficile, je pense qu'on a souligné les points les plus importants, quoi.
Ouais, le pire, c'est qu'en défense, c'était pas beaucoup mieux parce qu'il y avait déjà beaucoup d'absences avant la rencontre, hein, puisque Frankie Lou et Jesse Horn étaient absents. Et en plus, en cours de rencontre, les Panthers ont perdu beaucoup de monde, notamment dans le backfield, hein, avec Dante Jackson ou CJ Anderson qui sont sortis sur blessure. Corey Littleton, le linebacker aussi, s'est blessé. On attend de voir un petit peu ce qu'il en est de tout ça. La première mi-temps était plutôt intéressante, hein, comme je le disais, il y avait 17 avec un touchdown défensif en plus pour les Panthers. Donc c'était, ça partait plutôt sur de bonnes bases. Et après, en deuxième mi-temps, ça a commencé à être beaucoup plus compliqué entre les blessures. Et je ne sais pas, tu vas me dire si toi tu as ressenti pareil, mais j'ai senti que ça a lâché un peu quand même en défense.
Ouais, en fait, je pense que j'ai envie de dire, on va peut-être retomber un peu dans la même configuration que l'an dernier, dans le sens où la défense tenait la baraque et si l'attaque fournit rien, au bout d'un moment, j'ai envie de dire, on est qu'en semaine 7. Tu te dis que la saison va être longue et plutôt que de te crever à la tâche, peut-être baisser un peu le pied de l'accélérateur, quoi, parce que la perspective offensive est pas terrible et en l'occurrence viser des playoffs avec uniquement une défense, voilà. Puis surtout quand on voit notre début de saison, on retombe un peu sur une configuration typique de l'an dernier, quoi. Mais qui est arrivé plus tard, je trouve, l'an dernier.
Ouais, et en plus, ce qui aide pas non plus, c'est, on en parlera tout à l'heure rapidement, mais il y a pas mal de rumeurs de transfert, hein, comme on l'avait évoqué la semaine dernière, autour de pas mal de joueurs, notamment en défense. Donc c'est vrai que c'est peut-être, j'irais pas jusqu'à dire c'est des consignes, hein, j'en sais rien, mais peut-être que les joueurs, de même attendent, sont un petit peu dans l'incertitude, et donc du coup, peut-être ça a joué aussi. C'est une période un peu compliquée, hein, quand même, globalement, toujours après un changement de coach. Et là, moi, j'ai ressenti comme ça, en tout cas. Une des rares satisfactions, quand même, j'en profite, hein, c'est mon point hebdomadaire maintenant, mais Derrick Brown, toujours là. Vraiment, lui, pleine satisfaction depuis le début de la saison. Je pense que c'est pas loin d'être mon MVP, je pense, depuis le début de l'année. En tout cas, c'est un des joueurs qui m'a le plus plu jusque-là, comme j'ai eu l'occasion de le dire. Point d'interrogation sur Brian Burns, je sais pas, je l'ai quasiment pas vu sur le match, face à cette ligne offensive des Rams qui clairement c'est compliqué pour eux, enfin en tout cas sur le papier il y a vraiment beaucoup de joueurs bah, qui serait remplaçant dans pas mal d'équipes, malheureusement. J'ai pas vu Brian Burns.
Oui, non. Un peu aux abonnés absents. J'ai pas spécialement compris, surtout que, comme tu disais, en l'occurrence, la ligne des Rams c'est quand même sacrément décimée cette saison. T'as Matthew Stafford qui est très souvent sous pression, t'as quand même moyen de faire quelque chose un peu, et là c'est étonnant, on va dire.
C'est vrai, moi je m'attendais à un petit peu plus de sa part. Il a été pas mal face au tackle droit de Los Angeles, qui était peut-être qui était le dernier survivant de l'équipe championne de l'an dernier. Mais ouais, j'étais un petit peu déçu de cette prestation. Mais bon, on verra, c'était peut-être passager, c'est peut-être un mauvais dimanche.
C'est ça, peut-être pas sa journée.
Côté équipe spéciale, pas grand-chose à dire, hein. Eddie Pinheiro qui réussit son field goal et son extra point, Johnny Ecker qui fait des gros punts dans son revenge game. Pas grand-chose à dire là-dessus. Un petit peu plus peut-être au niveau du coaching. Alors qu'est-ce que tu as pensé de Steve Wilks pour sa première?
Ah, difficile, enfin voilà, on a vu le résultat, enfin il y a eu du sportif, il y a eu de l'extra sportif. Sur le sportif, bah on a eu un peu d'espoir en fait sur le premier drive, puis après bon bah comme on disait, t'es obligé de composer avec certains éléments, notamment en attaque, et puis pas mal de blessures, donc très très difficile pour son match en tant que enfin son premier match d'intérim en tant que coordinateur que head coach, je vais y arriver. Et puis voilà, puis après aussi, comme je disais, l'extra sportif à gérer avec Robbie Anderson, parce que voilà, on nous disait il y a quelques semaines, c'est quelque chose qui m'étonnait que le vestiaire vivait bien. Du coup, je me pose des questions vis-à-vis de ce qui s'est passé avec Anderson, à savoir qu'est-ce qui a pu amener en fait une réaction si virulente de sa part. Bon après voilà, on sait que du coup ils ont voulu le sortir un peu et que ça lui a pas spécialement plu, mais bon, il y a eu quelques problèmes d'extra sportif, on va dire.
Ouais, c'est sûr que pour une première, je pense qu'il pouvait espérer mieux. A priori, pour Robbie Anderson, c'est de la frustration, hein. On l'avait déjà vu un petit peu avec Sam Darnold l'an dernier. On a vu comment il avait réagi à l'annonce des rumeurs, c'était pas encore officialisation, mais aux rumeurs de l'arrivée de Baker Mayfield. Avec un tweet, il s'était fendu d'un no sur les réseaux. Donc voilà, il a jamais été du genre à cacher ses frustrations et ses émotions. Là, ouais, je pense que c'est le fait que rien n'avançait, que il n'était pas du tout visé, que l'attaque c'était tout à l'arrêt. Donc voilà, peut-être un petit peu tout. Et puis ouais, probablement le fait de voir son nom revenir dans toutes les rumeurs de transfert, ça a probablement pas aidé. Donc, est-ce que tu as quand même réussi à trouver un top et un flop côté Panthers pour cette rencontre?
Ouais, bah écoute, top. Voilà, on revient un peu sur des basiques. On en a un peu parlé. C'est peut-être une des seules satisfactions de ce match d'un point de vue offensif. J'ai mis mon top sur CMC. Parce que voilà, il nous a affiché des bonnes stats à la course, notamment surtout aussi à la passe, enfin à la passe à la réception, pardon, où il nous fait quelque chose comme 13 yards de moyenne par réception, donc c'est comme tu signalais aussi la stat, c'est lui qui nous a fait le plus avancé offensivement. Il a porté l'équipe offensivement, il n'y a pas d'autre terme, je pense, donc voilà, il mérite le top. Concernant le flop, bon, on en a aussi pas mal parlé, Robbie Anderson, parce que bon, même s'il y a de la frustration, c'est la façon dont il a eu de s'expliquer avec le coach des receveurs, c'était pas spécialement une image très très agréable, on va dire, notamment vis-à-vis des fans et compagnie, parce que voilà, se plaindre c'est une chose, se plaindre à 10 cm de la tête de son coach c'en est une autre, et en l'occurrence j'avoue que je suis plutôt content que du coup le trade se soit fait relativement vite chez les Cardinals.
De mon côté, en top, j'ai mis le troisième touchdown défensif en 4 matchs pour cette défense des Panthers, mine de rien. C'est une belle série, hein. Eux qui avaient commencé la saison avec 2 matchs sans turnover, enfin sans forcer de turnover, bon ben derrière ça va beaucoup mieux à ce niveau-là. Et puis ben voilà, après Marquis Hines et Frankie Louvou, ben cette fois c'est Dante Jackson qui a été inscrire 6 points et qui du coup ben a à nouveau outscoré l'attaque, hein. Et du côté du flop, en fait j'ai regardé le reste de la saison et j'ai vu qu'il restait encore 11 matchs à subir, hein, pour les Panthers. Ça va être très long. J'ai l'impression que je suis dans le même niveau que quand on arrive fin novembre, quoi. Donc ça va être très long. Alors la petite satisfaction, alors je sais pas si ça en est une parce que pareil c'est encore très tôt, mais là si vous voulez un peu d'espoir, a priori d'après Football Outsider, les Panthers ont actuellement 28% de chance d'avoir le premier choix de la draft. Si vous voulez commencer à regarder du côté des prospects au poste de quarterback probablement. Et en plus ça c'était avant les matchs de ce week-end, donc ça devrait peut-être augmenter, donc évidemment ça va changer, mais bon, voilà. Si vous voulez un petit peu d'espoir en l'avenir, il y a peut-être ça, mais c'est bien maigre comme consolation, j'en conviens. En parlant d'avenir, justement, on va essayer de, avant de conclure, on va essayer de regarder dans notre petite boule de cristal. Comme on le dit, il y a pas mal de joueurs qui reviennent dans les rumeurs de trade. Alors du coup, ce que j'ai envie de te demander, c'est rapidement, d'après toi, est-ce que ça bouge? Est-ce que ça reste? Et si ça bouge, bah, qu'est-ce que tu espères comme compensation? On va évidemment pas faire tous les joueurs du roster, il y en a 4 principaux dont les noms reviennent. Il s'agit bien sûr de Christian McCaffrey, de DJ Moore, Brian Burns, Derrick Brown. Est-ce que sur les 4, t'en vois un qui bouge, ou deux, ou tous? Ou alors ça reste, ou sinon, est-ce qu'il y a d'autres joueurs, toi, éventuellement, que tu pourrais voir échanger avant la trade deadline du 1er novembre?
Des joueurs que tu as cités, j'en vois deux, probables. Déjà, CMC. Voilà, on sait que y a pas mal de rumeurs autour de lui, et puis c'est en fait un des joueurs sur qui on pourrait récupérer une petite compensation, enfin une jolie compensation. Ouais, pour moi ça tournerait aux alentours d'un... C'est assez difficile en fait d'évaluer des compensations, mais j'imagine ouais, peut-être aux alentours d'un second tour de draft. Sinon un DJ Moore, j'avoue que je le vois pas spécialement bouger. Je n'espère pas, parce que je pense qu'il peut vraiment devenir un joueur beaucoup plus intéressant dans cette équipe et beaucoup plus ciblé et productif avec un meilleur quarterback. Sinon, le deuxième joueur que je vois bouger, c'est Brian Burns. Voilà, comme tu disais là sur ce match, il a pas été super présent, mais pour autant, c'est quand même un super talent. Et je pense que quelques équipes qui ont envie en fait de jouer le titre cette année pourraient essayer de faire un move pour le récupérer. Alors là, par contre, j'avoue que niveau compensation, je ne sais pas du tout. On taperait peut-être possiblement sur un deuxième tour, mais encore une fois, je m'avance pas trop parce que c'est toujours assez difficile à imaginer. Surtout, en fait, faut prendre en compte la valeur à un instant T pour une équipe. C'est assez particulier. Et sinon, dans le reste de l'équipe, je vois pas trop d'autres mouvements. Un Derrick Brown, je le vois bien rester. Je vois bien rester chez nous, tout comme par exemple un Jeremy Chin, surtout que il est sur la liste des blessés. Donc voilà, donc en l'occurrence, je le vois plutôt rester.
Ouais, je te rejoins sur cette liste de 4. C'est vrai que les deux noms qui semblent le plus facile à bouger ou le plus susceptible de bouger, c'est effectivement McCaffrey et Burns. Après, je sais pas, moi personnellement, je suis pas persuadé que les Panthers soient tant que ça en recherche de pique. Et en tout cas, par exemple, pour le cas d'un Brian Burns, rien ne t'empêche d'attendre à la fin de saison. Si vraiment tu veux accumuler des picks, voilà, tu sais, ça peut être un move que tu fais. Il est encore sous contrat la saison prochaine, il y a possibilité de le prolonger. Donc voilà, moi c'est un move que je pourrais voir plutôt après la saison, pas nécessairement à la trade deadline.
Oui, non mais ouais, c'est une option, ouais.
McCaffrey peut-être un peu plus, parce que c'est vrai que dans le cadre d'une équipe qui recherche le titre, bon ben voilà, ça peut être une arme offensive en plus qui va te faire la différence. Mais pareil, moi je vois aucun des joueurs sur lesquels les Panthers sont vraiment obligés de bouger tout de suite. Donc j'espère que s'ils n'ont pas la compensation qu'ils en attendent, à savoir, a priori, moi, de ce que j'ai pu lire, ce serait au minimum un premier tour pour chacun. J'espère qu'ils ne bougeront pas, quoi, et qu'ils attendront. Donc voilà, je vais jouer la carte de personne bouge, mais voilà, tout à fait possible qu'effectivement, là, on en saura plus dans un petit peu moins de 2 semaines maintenant. Avant ça, on va se tourner sur le match de dimanche. Retour à un match à 19h, un horaire un petit peu plus habituel pour nous. Avec la réception des Buccaneers de Tampa Bay, des rivaux de division, qui sont au sortir d'une défaite un peu surprise à Pittsburgh quand même. Un peu surprise aussi parce que les Panthers sont clairement outsiders, hein, même à domicile. Qu'est-ce que tu penses de ce match ?
Écoute, déjà je vais un peu rebondir sur, sur une déclaration de Brady il y a 2 semaines un peu plus peut-être. Qui en fait, quand il était interrogé sur pourquoi il y avait beaucoup de bilans assez à l'équilibre en fait dans la ligue, par exemple des 2-1 ou des 2-2, est-ce que c'était signe d'une année très disputée, qui avait répondu non, c'est que je vois beaucoup de football très médiocre en ce moment. Donc bon, en l'occurrence du coup voilà, ils ont été perdre leur match contre Pittsburgh avec une jolie petite engueulade sur sa ligne offensive, mais bon après voilà, ça reste les Buccaneers et je pense que bon, étant donné notre état de forme actuel, on devrait encore se faire un peu rouler dessus par les Buccaneers de Tom Brady, quoi.
Mais on va voir, ce sera la réponse dimanche prochain. On sera là, on va voir, on sera peut-être un peu moins là dans les prochaines semaines. On va voir si on n'espace pas un petit peu les podcasts, parce que c'est vrai que globalement, il n'y a pas grand-chose de nouveau d'un match à l'autre. Hein, on va pas se mentir. Donc on va voir si on se réserve la possibilité de zapper une semaine, si vraiment on n'a pas beaucoup d'infos à rajouter par rapport à ce qui a été dit précédemment. Mais vous inquiétez pas, on sera toujours là, quoi qu'il arrive, sur Twitter ou sur notre serveur Discord, hein, pour évoquer l'actualité des Panthers. À ce niveau-là, ça ne bouge pas. Merci Thomas d'avoir enregistré avec moi.
Écoute, merci à toi, encore une fois.
Et merci à vous de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous donc prochainement. Et puis d'ici là, bonne semaine à tous et à très bientôt. Ciao.
Ciao, ciao.